L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radio La.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Radio La Web Radio de proximité au pays de Dieulfi, Bourdeaux, Drôme, Monde. C'est toujours aussi plaisant et joyeux de vous retrouver chaque mardi à 9h30. Vous nous écoutez sur les ondes numériques, sur l'appli Radio La et également au podcast sur radiola.media. Pour ces entrevues hebdomadaires, on se fait les porte-voix, chers auditeurs et chères auditrices, des initiatives artistiques les plus réjouissantes de notre beau territoire où, il faut bien le dire, il fait très bon vivre. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement d'art contemporain et de culture qui trace sa route depuis 2019. C'est la 4e édition de Sillon qui prendra place durant 3 week-ends du mois d'octobre. Contrairement aux 3 éditions précédentes, celle-ci se déroulera plutôt en ville, à Dieulefi, et ce n'est pas pour nous déplaire. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin au micro Bernard Foréroux, écrivain poly-associativo-actif, membre actif de l'équipe de Sillon depuis le début, je crois. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Et autour de notre table aussi au micro, il y a bien sûr Bastien Joussaume, cofondateur ou fondateur et directeur artistique de Sillon. Bienvenue Bastien.
Bonjour.
Bastien, fondateur ou co-fondateur ? Co-fondateur, j'ai du mal à le dire.
Sillon, c'est une histoire évolutive, c'est-à-dire que ça part de l'atelier que j'avais ouvert quand j'ai débarqué sur le territoire il y a une vingtaine d'années et qui, au fil de l'eau et des rencontres et des perspectives, est devenue cette biennale. Mais on l'a construit effectivement et réfléchi à plusieurs au début.
Depuis le début, justement, Sillon s'attelle à décloisonner les spécialités artistiques, scientifiques et les savoir-faire locaux, faisant se rencontrer des milieux le plus souvent hermétiques les uns aux autres, en tout cas qui se rencontrent peu, avec l'idée qu'il n'y a pas une seule, mais plusieurs cultures pour toutes et pour tous. Est-ce que cette édition 2025 s'ouvre avec les mêmes aspirations, le même état d'esprit qu'au tout début, Bastien ?
Oui, à la fois avec le même état d'esprit, bien entendu, puisqu'on défend cette idée qu'un territoire est fait de différentes cultures et que ces cultures, l'ensemble de ces cultures, doivent se raconter, se partager et se vivre. Et à la fois, sur cette édition, on a également voulu recentrer sur le parcours d'art et sur le fait de défendre le métier d'artiste. C'est-à-dire que vraiment, il y a potentiellement des mauvaises perceptions vis-à-vis de l'art, du métier d'artiste. Et donc, vraiment, c'était important de faire un focus à cet endroit-là et de dire, oui, être artiste, c'est travailler, c'est être dans la recherche. Et donc, permettre au public d'être en relation avec ce travail-là.
Alors les artistes, ils seront 160, dont 60 invités. Il y aura aussi 30 lieux assez atypiques pour rencontrer les œuvres d'art. C'est une sorte d'exposition immense, en fait, organisée en un parcours de création. On va en parler, accessible à tous. À chaque édition, cette programmation, personnellement, elle me coupe le souffle. Elle m'impressionne. Comment elle s'est construite cette année et comment tu l'articules pour le public ?
Alors, elle se construit toujours en relation à l'existant et en relation au territoire même. Sur les différentes dernières éditions, on est entre Féline, sur Imandoul, Pont-de-Barré, tout ça, on construit avec les acteurs locaux, en proximité. Et sur cette édition, on est à Dieulefi. Et de manière naturelle, en fait, cette édition se construit avec les acteurs de Dieulefi, tissu associatif, différentes réalités culturelles. On voit effectivement que dans le programme, on est autant dans le sport que dans les métiers, que dans l'art. Et c'est le territoire aussi qui fait Sillon. C'est pas nous qui décidons de tout. C'est ouvrir pour que différentes associations, différentes personnes puissent parler de leur point de vue, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont, elles, à partager. Donc c'est une invitation faite au territoire à se raconter à différents endroits. Et effectivement, pour la construction du parcours d'art, eh ben, c'est aussi beaucoup de sollicitations. Si on sollicite la mairie, les services techniques, on sollicite des privés, des associations, tout un tas de monde à qui, en plus, on demande d'être autonome. Donc, c'est jamais évident. Mais en fait, cette ampleur-là ne pourrait pas exister si chacun, chacune n'était pas autonome. C'est-à-dire que nous, au niveau associatif, on n'a pas le nombre de personnes et l'énergie suffisante pour tout construire.
Donc, ça repose voilà. sur un ensemble, un réseau en fait, c'est un peu le réseau Sillon, non, Bernard ?
Il y a un aspect qui me semble extrêmement important dans ce que vous dites tous les deux. Bastien a insisté sur le fait de représenter les cultures du territoire, toutes les cultures du territoire, mais il y a aussi un aspect qui est important, c'est l'aspect de l'accès des gens du territoire à la culture. On a l'habitude de considérer que certaines formes artistiques, et notamment l'art contemporain, sont réservées aux citadins, aux grandes villes, aux grands musées. Et quand on décentralise des événements culturels de niveau national vers la province, vers le monde rural, on a l'impression que parfois c'est juste décentralisé pour que ça soit plus joli, mais que finalement ça s'adresse toujours au même public, et que quand on fait un grand festival de musique ou un grand festival de peinture, on fait descendre les gens des villes dans la campagne, mais ça reste toujours fermé aux gens des campagnes. Et nous, une des ambitions que nous avons à Sillon, c'est justement cet art contemporain, très contemporain, on a la chance, comme vous l'avez rappelé, d'avoir 160 artistes, que ça soit accessible à tout le monde. Que personne ne se dise, oh, mais non, c'est pas pour moi, c'est réservé aux touristes qui vont passer par là. Mais c'est vraiment quelque chose où on insiste énormément sur le fait que tout le monde peut venir, on peut venir avec les enfants. Il y aura des médiateurs dans chaque lieu d'exposition, de façon à présenter les œuvres, de façon à présenter les courants artistiques. C'est pas toujours évident à comprendre et à se ressentir. Et nous, c'est extrêmement important d'avoir cette alliance entre le respect des cultures d'un territoire et en même temps l'accès à la culture pour tous.
Et une diversité, une ampleur de liens avec le territoire et de liens entre ce qui s'y fait et ce qui se fait ailleurs qui est importante. Est-ce qu'il y a une thématique spécifique ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait lien entre tous les événements pour vous deux, là, pour cette quatrième édition ?
Sur l'ensemble des événements du programme 2025, oui, alors il y a toujours un peu malgré tout sur chaque édition des... Si ce n'est des thématiques, en tout cas des focus, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec l'intelligence artificielle qui arrive de toutes parts et qui est en mesure de remplacer beaucoup de nos potentiels humains, hein, que ce soit intellectuels, administratifs, etc., on revient beaucoup à la main aussi, on revient beaucoup aux gestes, on revient beaucoup au corps, au savoir-faire. Et donc sur cette édition, on avait envie aussi de raconter ça. On avait envie de raconter les métiers, les outils, les gestes à différents endroits, dans différentes réalités, que ce soit une réalité du quotidien ou des savoir-faire qui sont plus entrepreneuriales au niveau de Romois. Donc il y a vraiment qu'est-ce que l'humain va devenir en fait ? Qu'est-ce qui continue à faire du sens et revenir justement à des choses qui peut-être ne sont pas remplaçables. Alors, on a vu hein, que l'industrialisation avait remplacé les gestes à plein d'endroits, tout ça. Mais malgré tout, sur l'artisanat, il y a quelque chose qui perdure. Et il y a quelque chose qui continue à faire du sens parce qu'on se rend bien compte que l'humain est quand même dans sa vie en relation avec la matière, que ce soit son corps, que ce soit la terre qu'on cultive, que ce soit plein de choses. Voilà, on est dans cette matière-là et on questionne cette matière-là.
Et c'est aussi le lieu du commun, la culture, il me semble. Bernard Forero.
Oui, on a lancé cette année, et c'est une première, et je pense que ça va être assez exceptionnel comme expérience. On a lancé un circuit du geste artisanal et de l'art. C'est-à-dire qu'on va aller dans 8 entreprises emblématiques de la Drôme, sur des productions vraiment emblématiques de la Drôme, le nougat, l'huile de noix, les ravioles, etc. On va aller voir dans ces entreprises les gens travailler. Ces entreprises ont parfaitement conscience de l'importance de leur histoire, de leur passé, de leur culture, de leur tradition, puisqu'elles ont pratiquement toutes développé un petit musée à côté de leur activité de fabrication. Mais on va aller voir au-delà du musée les gens travailler, parce qu'il y a une esthétique du geste artisanal qui est extrêmement importante. Et la conclusion de ces visites et de cette démarche, elle va être donnée, ça ne sera d'ailleurs pas une conclusion, ce sera plutôt une introduction, puisque ça sera dès le 12 octobre, avec Guillaume Bardet qui nous donne une conférence à l'église Saint-Roch et qui est justement l'archétype du geste artisanal puisque c'est lui qui a conçu le mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris et qui est drômois et qui, en plus, ajoute à la dimension que nous recherchons, nous, culturelle, une dimension spirituelle qui est très importante.
Alors, en ce qui concerne donc le circuit de découverte des savoir-faire au sein des grandes entreprises, on peut dire, là, par contre, on va aller un peu loin. Huilerie Richard, le nougat Soubéran,
Valrhona,
la Scourtinerie à Nyons, où nous-mêmes avions fait un reportage, magnifique endroit. Oui. Brasserie de la Pleine Lune, les Picodons Cavé, Valrhona, on va aller jusqu'à Tain, l'Ermitage, et aussi les Ravioles, jusqu'à Romans même.
Et là,
ça commence le premier week-end ?
Ça sera le deuxième week-end. Voilà, ça sera le vendredi 17 et le samedi 18. Oui. Et je voudrais dire vous avez parlé des Picodons Cavé, on est à Diolfi, ils rouvrent leurs ateliers spécialement pour la manifestation, c'est-à-dire que jusqu'à présent le geste artisanal était un peu caché en arrière-boutique, mais là on va vraiment pouvoir le voir, le découvrir à travers des vitres ou directement avec les producteurs.
Mais c'est important ce détail des personnes qui font des ravioles par exemple et qui à un moment donné font un musée. On est vraiment à l'endroit de justement de la culture, c'est-à-dire que quand on parle du fait, souvent dans les politiques on dit désert culturel, c'est-à-dire finalement on est sur un territoire où on dit il n'y a pas de culture, en fait il y a des cultures mais elles ne se racontent pas. En fait l'aspect culturel c'est réussir à venir se raconter et faire du commun, c'est-à-dire qu'effectivement la culture existe en fond mais si elle ne se met pas au centre, si elle ne vient pas se raconter, finalement, elle n'est pas considérée comme culturelle. Et à un moment donné, pour reprendre l'exemple de ces grandes entreprises dromoises, elles ont décidé, au départ, de par un geste, de par une culture personnelle, de venir raconter ce qu'elles étaient. Et je veux dire, le fait de se raconter, c'est possible pour tout le monde, en fait. Pour chacun, chacune, qui, à leur endroit, à un moment donné, se raconte et viennent faire culture, et viennent partager ce qu'ils sont. Et en général, ce qui est intéressant à observer, c'est que quand on vient se raconter, quand on vient faire du commun, on essaie de donner le meilleur de soi-même. Et donc, ça crée des dynamiques vertueuses.
Et je voudrais ajouter qu'avec l'Office de tourisme...
C'est facile comme interview.
Avec l'Office de tourisme de Diolfi, on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va aller, on va faire un circuit à l'intérieur de la ville où on va aller chez des petits artisans. Pas seulement les grandes entreprises, il n'y a pas que Valrhona, Chaillance. On va aller chez un cordonnier, chez un potier, chez un chocolatier, voir travailler ces gens. Donc, au niveau vraiment du terrain. Au niveau du terrain. Et ça rejoint... Les deux se rejoignent, il ne faut pas penser que...
Bien sûr, il n'y a pas la grande et la petite histoire.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que c'est-à-dire que le geste de l'artisan est différent, sensiblement similaire au geste de l'artiste ?
Oui.
En tout cas...
je réponds oui.
Alors, Bernard répond oui, mais on est en mesure de répondre oui, sachant que ça découle d'une forme de recherche. En fait, on voit bien, on a aussi beaucoup travaillé autour de l'agriculture. Un agriculteur qui se questionne sur ses pratiques, sur la manière qu'il a de cultiver la terre, tout ça, est dans une forme de recherche, c'est-à-dire, entre guillemets, d'amélioration, de sens, et de, à un moment donné, se dire « Ok, moi, ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je l'effectue, tout ça ?» Et au niveau de l'art, on est effectivement dans cette dynamique aussi. Un artisan, au niveau, je ne sais pas, d'une fabrication, la manière de tenir un outil, la manière de tenir la matière, de percer quelque chose, tout ça, va essayer d'avoir le geste
le plus pur possible.
Bah, oui. Le plus pur, le ou plus... en tout cas le plus adapté, ou mais... celui qui fait du sens, ou celui qui est confortable.
Okay.
Vous le savez bien, si vous prenez le monde de l'art, les artistes se sont tout de suite aperçus que le geste de l'artisan était un geste merveilleux, esthétique, épuré. Regardez Vermeer avec la laitière en train de verser son lait dans une jarre. Regardez Caillebotte avec les raboteurs de parquet. Regardez Millet avec le semeur, le geste auguste du semeur. L'esthétique du geste artisanal, les artistes l'ont parfaitement comprise. Et ils la donnent à voir. Eh ben, on va la donner à voir, mais sur le terrain.
Et le côté sacré, on en parlera du coup le dimanche 12 octobre. Vous proposez une rencontre avec Guillaume Bardet, donc designer diolofitois d'adoption, qui a réalisé, vous le disiez Bernard, une grande partie du mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris. Et Marc Chauveau, donc frère dominicain, commissaire d'exposition. C'est quoi l'idée de cette rencontre ?
Alors, justement, comme on l'évoquait, en fait, on fait avec l'existant, c'est-à-dire sur Sillon. Et il se trouve que c'est Marc Chauveau qui a accompagné Guillaume depuis le début du processus jusqu'au mobilier de Notre-Dame. Donc ils se connaissent. C'est pas nous qui avons suscité cette rencontre. C'est que eux se connaissent déjà et que tous les deux ils vont évoquer justement cette aventure quand même unique. C'est-à-dire que même pour, je veux dire, un designer, un artiste, voir sa création, quelle qu'elle soit, à l'endroit ou à un endroit, comme peut l'être celui de Notre-Dame, c'est quand même, je dirais oui, effectivement, unique. Et donc, c'est un peu ça qui va être évoqué, et d'une manière très, très simple et très humaine.
Oui. Voilà. Et il faut dire qu'il y aura aussi un film, tu peux peut-être en dire un mot, Bastien, qui va être projeté au cinéma à Dolphy.
Oui, alors... Sur les rencontres et autour de Guillaume Bardet, il y a effectivement une projection au Labor le samedi 11 à 17h30. Samedi 11 à 17h30, qui est un film d'Emmanuel Mougne, qui a suivi Guillaume dans justement tout ce processus en filmant son atelier. Et c'est vraiment un film qui a une très très grande simplicité, humanité, proximité justement avec le faire. Voilà. Et donc du coup, le lendemain, on aura cette rencontre avec effectivement Guillaume Bardet et Marc Chauveau à l'église Saint-Roch de Dolphy à 15h. Alors, pour reparler à nouveau toutes ces relations au territoire et associations, la rencontre, la projection du samedi 11 sera portée et coportée avec Cinéma et Spiritualité, qui est une association de Dolphy. Le lendemain, c'est aussi co-construit avec la paroisse Bonlieu de Bonlieu-sur-Roubion et l'association Pierre Vive. Il y a également le musée de Mours-Saint-Eusèbe. Qui est dans la Drôme, un peu plus au nord, qui est un musée d'art sacré, le seul musée d'art sacré qu'on ait finalement dans la Drôme, qui est un petit bijou que je vous invite à aller voir. Et comme l'idée de l'exposition sur Guillaume était effectivement d'être autour du travail de Guillaume Bardet, mais également autour du mobilier liturgique.
Oui, de la sacralité du mobilier.
On a emprunté au musée de Mours toute une série de bannières qui seront également présentées dans l'église.
Alors, pour reprendre votre souffle, messieurs, car je pense que c'est indispensable, je vous propose une petite pause sacrée, justement, avec le Cum Dederit d'Antonio Vivaldi, chanté par Andreas Scholl. À tout de suite.
C'est pas espèce de monologue. Thank you.
Andreas Scholl avec le Cum Dederit, Antonio Vivaldi. On parle de Sillon Biennale d'art et de culture qui se déroule durant 3 week-ends au mois d'octobre. Bastien Joussaume et Bernard Forerou sont à Radio La pour en parler avec nous pour cette deuxième partie d'interview. Bastien, ici, les œuvres à Sillon ne sont pas simplement montrées comme ça se passe dans les musées d'art contemporain. Il s'agit aussi qu'elles dialoguent avec les espaces et aussi avec le temps. Le temps, j'entends par là le patrimoine, les vieilles pierres, parfois les bâtiments. Quels sont les espaces privilégiés qui sont ouverts pendant Sillon et dans lesquels on va pouvoir aller se baigner dans les œuvres d'art ?
Alors sur Sillon, il y a deux réalités. Il y a les lieux que Sillon investit, qui sont assez atypiques et avec des réalités un peu différentes. Il y a la vieille maison Régeaubert, il y a la piscine municipale, il y a des bories, ce qu'on appelle ici des bories, donc des grottes qui ont été creusées. Il y a l'école de Beauvallon au niveau de son gymnase. Donc il y a vraiment des espaces très 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 différents qui sont à découvrir, effectivement, et dans lequel il y aura des œuvres exposées. Alors, suivant les lieux, un artiste par lieu. Si on prend l'église Saint-Pierre, du coup, il y aura un artiste à l'intérieur. Si on prend la piscine municipale, il y a tout un commissariat belge où il y a une quinzaine d'artistes invités. À Maison Régeaubert, c'est un artiste par pièce. C'est une immense villa, donc ça fera quasiment une trentaine d'artistes. Et je voulais aussi signaler qu'en fait, effectivement, il y a 20 lieux Sillon qu'on investit nous, où on choisit les artistes qu'on y expose. Mais il y a également, au niveau du tissu associatif des collectifs diolfitois, 10 lieux en résonance, c'est-à-dire qu'il y a 10 entités artistiques du territoire qui font partie du parcours
et qui ont
leur propre programmation. Voilà. C'est ça. Et c'est une manière aussi de mettre en avant et en valeur leurs esthétiques à eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi les artistes qui étaient dans ces lieux-là. C'est ces lieux-là qui ont bien entendu, par rapport à leur histoire et dynamique, choisi ces artistes. Alors, Kraft, la Curioserie, la Roseraie.
Le Manoir, la Maison de la Céramique.
Voilà.
La Remise d'Edmond.
Arte Nostrum,
La Prairie, ça fait quand même beaucoup de...
Momo Studio,
voilà, beaucoup de, voilà, beaucoup de monde qui participe de l'aventure. Et ça, pour nous, c'est assez extraordinaire. Parce que finalement, ça crée un vrai commun où tout le monde se rassemble autour d'une perspective de partager leur endroit artistique.
Alors, on va sillonner beaucoup, beaucoup de parcours et aussi une envie de promouvoir la mobilité douce, le slow art, le slow déplacement.
Oui. En fait, depuis le début sur Sillon, Sillon a été au début financé par les programmes Leader. Sur le programme Leader, il était question effectivement de travailler sur la mobilité et on a travaillé sur Sillon dès le début sur les questions de mobilité. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on vient sur cette édition à Diolfi. C'est que finalement, attirant de plus en plus de monde, Sillon et des personnes qui viennent, du public qui viennent de la ville, on a mis en place des parcours à cheval, on a mis des vélos à disposition, on a percé des sentiers de randonnée, et voilà. Et on a fait tout un travail au niveau de la mobilité. Et s'il y a 200 personnes qui fréquentaient ça, et c'était super, les 4000 autres, entre guillemets, étaient avec leur voiture, et ça devenait ingérable dans les petites routes de campagne là-haut. Et on s'est dit, en fait, Sillon, ce serait aussi intéressant de le ramasser, et que finalement, ce soit praticable à pied, si ce n'est à vélo. Là, on propose aussi une calèche les samedis après-midi, 13h à 18h. Voilà. Alors, sur Diolfi, on va perdre cet aspect paysager, qui est aussi l'ADN de Sillon, parce que les publics adoraient circuler dans ces paysages magnifiques de l'arrière-pays. Et donc, on a quand même gardé trois lieux, qui sont un peu plus extérieurs. La chapelle Saint-Maurice, qui sera uniquement accessible en navette électrique. L'église de Combes.
Ou à pied.
ou à cheval. Et l'église de Combes est en dessous, Ruche du Monde, le magnifique petit musée du miel. Voilà.
Il y a une dimension très importante, c'est quand on faisait le parcours de Sillon et qu'on le faisait en voiture, la voiture, ça vous mobilise. Mmh. Ça ne vous laisse pas savourer ce que vous venez de vivre. Alors que vous vous rappelez, Montaigne disait « Je ne pense bien qu'en marchant ». Quand vous allez d'un lieu à l'autre à pied, vous avez le temps de revoir ce que vous venez de voir, de l'insimiler, de l'intégrer à votre réflexion avant d'arriver dans un autre lieu où autre chose vous attend. Mais cette dimension pédestre, elle est vraiment extrêmement importante.
On se rend compte qu'il y a vraiment une réalité différente et une sensibilité différente si on est à pied, à cheval, à vélo ou en voiture. On ne vit pas du tout les choses de la même manière, c'est ce que vient d'expliquer Bernard, mais vraiment, on peut le vivre. Et effectivement, par rapport à Sillon, tous ceux qui l'ont fait quand ça faisait 45 km entre six villages, tous ceux qui l'ont pratiqué à vélo, trouvaient ça extraordinaire parce que c'était finalement le moyen le plus adapté. À la fois, ça permettait d'aller d'un lieu à l'autre et à la fois, ça permettait de prendre son temps. Voilà. Donc, vraiment, la mobilité est très importante pour ce qu'elle permet de dégager comme disponibilité à ce qu'on voit.
Il y aura également des ateliers d'artistes qui seront ouverts dans les villages alentours, l'occasion de randonner peut-être pour s'y rendre aussi, c'est ça? Il y a une dizaine d'artistes qui ouvrent leurs ateliers?
Oui, tout à fait. Il me semble que c'est le deuxième week-end.
C'est ça. Hein.
Et effectivement, c'est toujours un plaisir.
Là, on n'est plus seulement à Diolfi.
On n'est plus seulement à Diolfi. Effectivement, on ouvre un peu plus large. Et c'est vraiment toujours un plaisir que d'aller rencontrer les artistes dans leur espace de travail. On y découvre justement, par rapport au métier d'art, on y découvre la fabrication. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement devant un résultat, devant une œuvre d'art. On est là à l'endroit de comment ça se fait.
Et en parallèle de tout ce que nous avons évoqué, de nombreuses autres expériences culturelles, patrimoniales et collectives à tester. On pourra notamment assister à un défilé de mode, s'initier au trail ou à la boule lyonnaise avec les associations locales. C'est vraiment très impressionnant cette programmation. Est-ce qu'il y a quelque chose, je voulais peut-être parler de l'inauguration, le 11 octobre, il y a une soirée spécifique au domaine de Réjeauberne.
Voilà, 11 octobre, effectivement, au domaine des sources. Alors je voudrais aussi remercier chaleureusement le domaine des sources, qui nous permet de développer quelque chose là-bas, qui nous met à disposition le château, qui nous met à disposition plein d'espaces. C'est vraiment, pour nous, assez extraordinaire. Et effectivement, le 11 octobre, à 19h, c'est l'inauguration de Sillon qui se passera là-bas. Alors, il y aura à la fois des performances de l'École supérieure des Beaux-Arts de Valence, une lecture de Gauthier David, DJ Von Kids qui nous mettra aussi un peu du son, et voilà.
Oui, Bernard.
Moi, je voudrais revenir sur quelque chose de très, très terre à terre. C'est simplement pour dire que tout ce qu'on vient de décrire, et vous avez souligné l'abondance de la proposition, c'est accessible avec un petit bracelet qui coûte 10 euros. Et ça me semble important parce que je visite énormément d'expositions. C'est rarement dans des prix comme ça. On est plutôt dans des prix largement supérieurs. Mmh. Et là, ça participe de ce que nous recherchons. C'est-à-dire que tout le monde peut venir.
Accessibilité maximale. Voilà. Où est-ce qu'on va pouvoir se procurer ce bracelet? Est-ce que c'est au lieu zéro, à la piscine municipale, par exemple?
À la piscine municipale et dans la maison Réjeaubert. Ce sera les deux endroits où on pourra se procurer ce bracelet. Mais on peut anticiper. Si on veut participer à l'ensemble de l'opération.
En ligne. Sillon sans s.org. Et en restant un petit peu terre à terre, il y a aussi un appel aux dons qui est lancé, puisque Sillon commence en n'ayant pas du tout équilibré ses comptes, certainement dû à trop peu de subventions, ce qui est une marotte de nos jours. On fait un appel aux dons maintenant au micro, Bastien, quand même?
Alors, on peut faire un appel aux dons. J'aimerais quand même simplement, très rapidement, dire qu'on est soutenu par les pouvoirs publics. C'est des pouvoirs publics, que ce soit l'État, la région, le département, les communautés de communes, qui suivent le projet Sillon depuis le début et qui essaient de faire le mieux qu'ils peuvent et qui, aujourd'hui, se retrouvent dépendants de décisions ministérielles. Et malgré toutes les bonnes volontés, en fait, il n'y a plus de sous. Et donc, nous, en fait, qu'il n'y ait plus de sous et qu'on nous le dise rapidement, pas de problème, parce que finalement, on adapte en fait, la réalité du festival et de la biennale à ça. Mais en fait, ces annonces, elles sont faites hyper tard. Et donc, toute la programmation est faite et tout est en place. Et du coup, après, on peut difficilement annuler et on doit faire avec. Donc là, c'est vrai qu'on part avec un déficit budgétaire assez important. Et on a lancé par mail et sur HelloAsso deux manières de pouvoir contribuer à ce budget-là, soit par le biais d'un don, soit par le biais d'acheter son pass justement en avance, qui va nous permettre d'avoir un peu une visibilité. Et c'est vraiment super si ça peut être fait. Je crois souvent qu'on a l'impression de devoir donner beaucoup. Or, en fait, on peut participer à petite échelle et c'est bout à bout que finalement, on y arrive aussi.
Bernard, un dernier mot ?
Un dernier mot ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je veux dire, si vous participez financièrement, vous ne venez pas soutenir une association financièrement. Vous n'êtes pas nous apporter de l'argent pour qu'on fasse quelque chose. Vous venez financer votre propre développement culturel sur votre territoire. C'est la nuance, elle est très, extrêmement importante. Ce n'est pas le soutien à une association qui fait, c'est la participation volontaire à l'expansion de la culture sur son propre territoire.
Engagez-vous et parlez-en également à vos voisins, à toutes celles et ceux que vous pensez ne pas être destinés à ce type d'événement, car l'idée c'est que ce soit transversal et qu'on accueille tout le monde. Bien entendu, un grand merci Bernard. Bernard Forerou, Bastien Joussaume d'être venu au micro de Radio La. Donc je rappelle, la Biennale d'Art et des Cultures Sillon, ça commence le week-end du 11 et 12 octobre et ça continue les deux week-ends suivants. Adieu Luffy et finalement partout autour, dans la Drôme également. Tout le programme sillon.org, les liens sont dans l'article évidemment de cette entrevue. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Merci.
La semaine prochaine, rendez-vous à 9h30. Mardi, bien sûr. On ne sait pas encore qui sera au micro. Ce sera une surprise. À très vite à l'écoute de Radio La, au pays de Dieulfi-Bourdeau et ailleurs. On se quitte avec Fertile Ground et le titre Culture Bandit. Restez curieux et vive les radios associatives et portez-vous bien.